16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, ici c'est Stéphane Bern, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Deux heures d'érudition, mais aussi de grands éclats de rire, grâce à cet inénarrable trublion de Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un trublion, oui, mais qui parfois, je le sens, vous met mal à l'aise quand, au beau milieu d'un de vos récits, vous m'entendez pouffer bêtement au détour d'un mot pourtant bien anodin, comme récemment.
S'il est fier de son instrument, Adolphe Sax... Non, Mathieu, non.
J'espère vraiment, Stéphane, que vous n'en viendrez pas un jour à me détester, car c'est un peu notre thème aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai, Mathieu, les duos fâchés à mort de l'histoire. Je vous parlerai de Voltaire et Rousseau, deux philosophes qui ne se sont jamais vus en vrai, mais qui se sont violemment chamaillés par l'être interposé. Puis d'une amitié étonnante qui a rapidement mal tourné entre celui qui deviendra président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, et le crooner assez proche de la mafia, Frank Sinatra. Quant à vous, Mathieu, vous nous raconterez les affres d'un duo qui est plus qu'un simple duo, deux frères qui, hélas pour les fans de rock, ne peuvent plus blairer les frères Gallagher du groupe Oasis.
Oui, feu Oasis, puisqu'évidemment le groupe s'est dissous, car d'un côté Liam passe sa vie à casser du sucre sur le dos de Noël, alors que Noël, de son côté, appelle carrément les magazines People pour raconter des horreurs sur Liam. Pour vous situer, le degré d'animosité entre les deux, c'est pire, Stéphane, qu'entre vous et Clémentine Portier-Kaltenbach après le quiz. Et d'ailleurs, j'ai eu l'avocat de Clémentine dernièrement, il vous enjoint de cesser d'appeler la rédaction de Paris Match pour raconter des trucs sur elle.
C'est une catin, oui.
Elle vit au milieu des ordures, des rats, des chiens sauvages et des cochons.
Mais non, mais c'est pas un peu d'indignité, car justement, voilà Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Clémentine. Bonjour, messieurs, Clémentine qui a reconnu là Camille Claudel, car personnellement, je ne vis ni au milieu des chats, ni encore moins au milieu des ordures. Alors, quand on a un ennemi juré, naturellement, on ne le salue pas. Et la chose est d'ailleurs grandement facilitée par les temps qui courent, puisqu'on n'est plus censé...
C'est pratique, ça.
Eh bien oui, on n'est plus censé serrer la main. Alors, il y a, malgré tout, nous qui sommes entre gens aimants, on peut se toucher du coude, c'est pas très joli comme pratique.
Il y en a d'autres. On a besoin d'avoir des moignons.
Oui, c'est moche. Il y en a d'autres qui font le namasté indien. Oui, vous savez, namasté, c'est je m'incline devant toi en sanskrit, c'est très beau. Les deux mains jointes au niveau de la poitrine, j'aimerais bien faire ça. Puis il y a aussi l'ojiji japonais, c'est une courbette plus ou moins prononcée selon le statut de l'interlocuteur. Donc il faut adapter l'angle de la courbette. Mais quand même, la poignée de main n'a pas dit son dernier mot. C'est une pratique bien trop ancienne. Bon, bah oui, l'épidémie aura pas sa peau. Et je vais justement vous retracer l'histoire de la poignée de main.
D'accord.
Moi, je ne sais pas si ça va revenir la poignée de main, parce les films, quand je vois dans les films des gens se serrer la main, rien que ça me fait froid dans le dos.
Mais il est très mélancolique de ne plus pouvoir serrer ses amis dans ses bras.
Moi, c'est les hugs.
Vous êtes très à l'américaine, finalement, Stéphane.
Alors, justement, pour parler de à l'américaine, nous avons David Castello-Lopez qui est avec nous. Je ne vois pas le lien, mais David...
Non, mais vous l'avez cherché longtemps et vous l'avez regardé comme si j'allais pouvoir vous aider, mais non.
Il a vécu aux States.
Oui, mais aujourd'hui, rien à voir.
Non. Rien à voir. Je vais vous parler, on parle des gens qui se détestent, donc moi je vais parler du duel. Et en particulier depuis quand est-ce qu'il a disparu, le duel, et pourquoi?
Le dernier duel est très récent.
On va voir, Stéphane a déjà
un peu défleuré le sujet.
C'est Clémentine qui nous en avait parlé.
Olivier Pouls, notre spécialiste gastronomie, qu'on part aux origines, une recette avec vous.
Oui, et puis avec ce que je vais vous concocter, vous ne pourrez pas me détester. Enfin, je l'espère en tout cas. Je vais vous faire voyager un peu, puisqu'on est malheureusement contraint de rester chez nous, mais par les saveurs, je vais vous emmener en Amérique du Sud pour déguster un ceviche.
Ah, le ceviche, le poisson cru. Enfin, chers auditeurs, aux alentours de 5h-10, vous serez là, j'en suis sûr, appâtés par l'odeur du sang. Ce sera le quiz imposant, comme chaque après-midi, les Gallagher de l'histoire, Clémentine et Stéphane. Mais tout de suite, découvrons notre première inimitié légendaire de l'histoire, celle qui opposa Rousseau à Voltaire.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ce sont deux des plus grands philosophes français du XVIIIe siècle, leur joute verbale impressionnée par la densité et la hauteur de leurs arguments.
C'est toi.
Non, c'est toi.
Non, c'est pas moi.
Si, c'est toi.
Pas moi.
Ah oui.
Non.
Voltaire et Rousseau ne pouvaient pas se blairer, mais pourquoi? C'est ce que nous raconte cet après-midi Stéphane Bern, qui, à défaut d'avoir lu le Zadig de Voltaire, s'habille quasiment intégralement chez Zadig et Voltaire.
Oh non, absolument, j'ai pas les moyens.
D'un côté Voltaire, de l'autre Rousseau. Deux célèbres philosophes des Lumières qui ne s'apprécient n'appréciaient guère. De leur mode de vie jusqu'à leur philosophie, ils n'étaient d'accord sur rien. Est-ce la faute de l'un ou de l'autre ? Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau. Dans les années 1760, Voltaire est riche et célébré dans toute l'Europe. Intellectuel, financier, aristocrate, tout le gratin se presse chez lui, au château de Ferney, près de chez vous,
Mathieu. Oui, tout près.
Oui, oui, bien sûr. Tout le gratin, donc, je disais, se presse chez lui et Voltaire, perruqué, vêtu de satin, reçoit ses visiteurs tel un grand seigneur. Hélas, pour lui, Rousseau ne connaît pas le même succès. À peu près à la même époque, le philosophe, qui a 18 ans de moins que Voltaire, doit fuir Paris et Genève où ses livres sont interdits. Caché dans une petite maison en Suisse, il vit simplement, pour ne pas dire pauvrement, entouré par la nature qu'il affectionne. Tout semble donc séparer les deux philosophes. Vous allez voir que s'ils se détestent cordialement, ils ne se sont sans doute pourtant jamais rencontrés. Revenons aux origines. Jean-Marie Arouet, c'est le vrai nom de Voltaire, est né le 21 novembre 1694. La légende raconte qu'à 3 ans seulement, il était capable de réciter la Moïsade, un texte dénonçant la religion. Son père l'envoie au collège réputé de Louis le Grand à Paris, dans lequel Jean-Marie rafle les premiers prix tout en accumulant les pitreries pour se faire remarquer. Un jour, alors qu'il s'amuse en classe avec une tabatière, celle-ci lui est confisquée. Le jeune Jean-Marie Arouet, au lieu de se plonger dans ses leçons, se met à versifier. « Adieu, ma pauvre tabatière, adieu, je ne te verrai plus. » De son côté, Jean-Jacques Rousseau naît le 28 juin 1712 dans la famille d'un modeste horloger suisse de Genève. Son père l'abandonne quand il n'a qu'une dizaine d'années. D'abord confié à un pensionnat, il devient apprenti chez un maître graveur qui le maltraite. Mais à 15 ans, il s'enfuit. Rousseau, qui est protestant, se convertit au catholicisme. L'Église le prend en charge et l'envoie à Chambéry, chez une certaine Madame de Warins, qui devient sa maîtresse, s'occupe de son éducation et lui fait découvrir l'œuvre de Voltaire. Pour Rousseau, c'est une révélation. Voltaire devient son idole. Il faut dire que dans les années 1740, Voltaire, qui ne se fait plus appeler Jean-Marie Arouet, est l'écrivain le plus célèbre de France. Il a certes connu quelques déboires. En 1717, il a passé presque un an à la prison de la Bastille après avoir écrit un poème moqueur sur la relation incestueuse que le régent Philippe d'Orléans, qui dirige la France à cette époque, entretiendrait avec sa fille. À sa sortie de prison, il publie une pièce de théâtre Œdipe, puis 5 ans plus tard, un poème épique, La Henriade, qui connaissent un immense succès. Voltaire devient une star. Un signe honneur lorsqu'il signe un opéra, La Princesse de Navarre, pour le mariage du dauphin Louis, fils du roi Louis XV, avec l'infante d'Espagne. C'est à ce propos qu'a lieu l'un des premiers échanges épistolaires entre le déjà célèbre Voltaire et Rousseau, jeune inconnu. Débarqué à Paris quelques années plus tôt, Rousseau a entamé une carrière de musicien et se trouve chargé d'abréger l'opéra écrit par Voltaire. Rousseau est en joie. Il va enfin travailler pour son dieu Voltaire. « Il y a 15 ans que je travaille pour me rendre digne de vos regards, lui crie-t-il. » Mais Voltaire, qui triomphe à la cour, se désintéresse complètement de cette collaboration. Cruelle déception pour Rousseau, qui assiste seul aux répétitions et...
Ah oui, là, il aurait pu le croiser.
Mais oui, il est à peine remercié. 7 ans plus tard, en octobre 1752, Rousseau connaît enfin, lui aussi, le succès, avec Le Devin du village, un divertissement musical. On dit que Louis XV en chantonne même les airs. Mais l'artiste se dérobe quand on veut lui accorder une pension. Ne supportant pas la vie mondaine parisienne, il rentre à Genève. Rousseau s'est découvert une vocation de philosophe sur le tard. À 43 ans, il publie son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes qui le fait connaître. Il assure que l'homme était bon à l'état de nature, mais a été corrompu par la civilisation. Grand supporter du progrès, Voltaire lui adresse une lettre ironique, presque méchante. « On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à 4 pattes quand on lit votre ouvrage. » Ces mots sont féroces pourtant. Pendant plusieurs années, les deux philosophes continuent pourtant de s'écrire. Les relations sont froides mais polies. Jusqu'à ce jour de juin 1760, où Rousseau ne supporte plus les critiques de Voltaire. « Je vous hais enfin, puisque vous l'avez voulu », écrit-il à son ancienne idole. Voltaire est scandalisé. « Je voudrais que Rousseau ne fût pas fou, mais il l'est », relate-t-il au philosophe d'Alembert, rompant ainsi tout lien avec Rousseau. Il faut dire aussi que Voltaire n'a pas que ça à faire. À cette époque-là, il réhabilite la mémoire de Jean Calas, un protestant injustement exécuté pour avoir tué son fils qu'il souhaitait se convertir au catholicisme. Ce dernier s'était en fait suicidé. Voltaire publie aussi anonymement le Dictionnaire philosophique et le Sermon des 50, qui sont des textes anti-religieux. Rousseau commet alors une terrible trahison en désignant publiquement Voltaire comme l'auteur du Sermon des 50. Il est infâme d'être délateur. Il est abominable de dénoncer son confrère, sophisque Voltaire, qui élabore minutieusement sa vengeance. À la fin de cette année 1760, il tient sa revanche et ne tarde pas à dévoiler le secret le plus intime de Rousseau.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Fâché à bord, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Fâché comme le sont Voltaire et Rousseau, on l'a bien compris. Fâché par l'être interposé. Stéphane, vous nous avez laissé pile au moment où Voltaire s'apprête à faire une belle vacherie, on peut le dire, à Rousseau, qui lui aurait dit, je cite, « Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis ».
Oui, presque, Mathieu. Presque, mais pas tout à fait. Rousseau est comme il est, c'est vrai, mais il est un homme qui a abandonné les 5 enfants qu'il a eus avec son épouse Thérèse Levasseur. C'est cela que Voltaire décide de révéler. Pour Rousseau, c'est un coup terrible. Ses écrits prônant la souveraineté du peuple avaient déjà fait de lui l'ennemi public numéro 1. Menacé d'arrestation en France, la ville de Genève lui a aussi fermé ses portes. Désormais, partout où il passe, sa réputation de père indigne le précède. Il se cache dans la campagne suisse, à Moutier. Abandonnant perruque et bel habit qu'il arborait en ville, Rousseau revêt une simple tunique pour faire de longues promenades dans la nature. Mais les habitants de Moutier ne veulent pas de lui non plus et lapident sa maison en signe de protestation. Pour sauver sa peau, Rousseau est obligé de fuir en Angleterre où il s'installe durant quelques années. Devenu paranoïaque, persuadé d'être espionné, il finit par regagner la France 7 ans plus tard. De son côté, Voltaire, qui vit avec sa maîtresse, Madame Denis, dans son luxueux château de Ferney, à la frontière suisse, organise son dernier voyage à Paris. Il a 83 ans et c'est un triomphe. On dit que les Parisiens veulent dételer ses chevaux pour avoir l'honneur de tirer eux-mêmes son carrosse. La bonne société se précipite à l'Académie française pour assister à sa dernière pièce, Irène. À la fin de la première représentation, le buste de Voltaire est monté sur un piédestal au centre de la scène. Mais Voltaire vit ses derniers instants. Le 30 mai 1778, alors qu'il est sur le point de trépasser, un homme d'église le supplie de se réconcilier avec la religion, lui demande s'il croit bien en Jésus-Christ. Voltaire, fidèle à lui-même, a un dernier trait d'humour. « Au nom de Dieu, monsieur, ne me parlez pas de cet homme. » À la même époque, Rousseau quitte définitivement Paris pour le château d'Ermenonville, dans lequel il a été invité pour se reposer. 6 ans auparavant, il a écrit ses célèbres confessions, mais ce nouvel ouvrage, jugé impudique, a fait scandale. À bout de souffle, Rousseau meurt le 2 juillet 1778, 2 mois après Voltaire. Par-delà la mort, les deux philosophes peuvent cependant poursuivre leur dispute au Panthéon à Paris, puisqu'après la Révolution, leurs dépouilles ont été placées. L'une en face de l'autre, forcément.
Ils auraient été contents.
Europe 1, historiquement vôtre.
Monsieur, je ne vous aime point.
Mais moi... Je vous aime quand même, Mathieu.
Non, mais moi aussi, Stéphane. Je citais simplement le livre de notre invité, Monsieur, je ne vous aime point, Voltaire et Rousseau, une amitié impossible. Bonjour, Roger Paul Droit.
Bonjour.
Bonjour, Roger Paul Droit. Vous êtes philosophe et écrivain. Le titre de votre roman, Monsieur, je ne vous aime point, chez Albin Michel, reprend une phrase cruelle que Rousseau avait écrite à Voltaire dans l'une des lettres qu'il s'envoie régulièrement. C'est la lettre qui déclenche définitivement la guerre entre ces deux génies, ou bien avait-elle déjà commencé auparavant?
Cette guerre, elle se prépare pendant presque 30 ans. C'est une longue histoire, une sorte d'engrenage qui va crescendo, qui commence, évidemment, vous l'avez rappelé, par l'admiration qu'a le jeune Rousseau pour Voltaire, qui ensuite s'envenime petit à petit avec des différents personnels, des différents caractères. Et puis un jour, effectivement, alors qu'ils sont déjà depuis longtemps en correspondance avec des amis communs, avec des réseaux de publications, Rousseau écrit à Voltaire « Monsieur, je ne vous aime point, je vous hais alors que vous auriez mérité je vous vénère et que je continue à vous admirer.
Mais elle est née comment cette... Moi, je n'arrive pas à comprendre d'où vient cette haine.
Oui, et puis surtout la bascule entre l'admiration et la haine.
Entre l'admiration et la haine. C'est simplement une rebuffade. C'est le fait qu'il ait refusé de collaborer pour le conte musical pour les noces du fils de Louis XV.
Je crois qu'il n'y a pas une réponse unique à votre question. C'est tout un empilement de choses. Ils n'ont pas le même tempérament, ça c'est sûr. Ils ne viennent pas du même milieu social. Ils ont des vues philosophiques, spirituelles, complètement opposées. Et puis, leur relation ne colle pas. Il y a toute une série de malentendus. Et un jour, Rousseau, qui effectivement s'échauffe, assez souvent. Il pète les plombs, nous dirions, dans un langage qui n'est pas celui de l'époque, évidemment. Et il finit par écrire ça à Voltaire, « Je ne vous aime point » parce que je crois qu'aussi, sans faire long, il y a Genève, qui est un des grands enjeux entre eux. Genève, à côté de laquelle Voltaire est venu pour pouvoir se réfugier, il a des réseaux de pouvoir avec les banquiers de Genève, avec les pasteurs les plus éclairés. Et Rousseau, lui, est plutôt soutenu par la classe populaire, par les pasteurs les plus austères ou les plus fervents, les plus fidèles à Calvin. Et ils finissent l'un et l'autre par avoir un enjeu politique et social autour de cette ville. Et Rousseau s'imagine, finalement, que Voltaire corrompt sa patrie genevoise, qu'il l'empêchera d'y revenir, et il lui écrit « Je ne vous aime point parce que vous m'empêchez de revenir chez moi, vous allez être la cause que si je meurs, je serai dans le ruisseau. »
Mais il était devenu
évidemment,
parano,
il est fou, il est fou.
Non, il est paranoïaque. Oui. On va continuer à parler de nos duos de personnages fâchés à mort, et de Voltaire et Rousseau en particulier, avec notre invité qui les connaît très bien, et l'un et l'autre, c'est Roger Paul Droit, et on est toujours sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
On revient aujourd'hui avec Stéphane sur les inimitiés célèbres de l'histoire. Quelle inimitié plus célèbre que celle entre Voltaire et Rousseau? On en parle avec notre invité Roger Paul Droit, auteur d'un livre, Monsieur, je ne vous aime point, Voltaire et Rousseau, une amitié impossible. Alors, Roger Paul Droit, déjà, est-ce que ce que disait Stéphane dans le récit est juste? On est sûr qu'ils se sont jamais rencontrés? Ça paraît dingue, ils s'écrivent, ils s'invectivent par lettre interposée, mais jamais l'idée de se rencontrer, de mettre les choses au point autour d'un dîner, par exemple, ne leur vient?
Les historiens discutent de cela. Ils se sont peut-être croisés dans un salon, soit le salon de Madame Dupin ou le salon de Madame de Graffigny, mais à un moment où c'est le jeune Voltaire, le grand Voltaire, je veux dire, très connu, et puis le jeune Rousseau, peut-être se sont-ils présentés quelques instants, parce que il y a une lettre où Voltaire dit « Ah, je l'ai rencontré il y a 25 ans, mais il se trompe sur les dates. » Enfin, vous voyez, je crois qu'ils se seraient croisés dans la rue, à part le fait qu'ils étaient célèbres l'un et l'autre, mais ils ne se seraient peut-être pas reconnus, je veux dire.
Oui, mais ça en dit long, Roger Paul Droit, sur Voltaire. C'est-à-dire qu'il était très imbu, finalement, de son statut de star des philosophes, et qu'il méprisait les petits jeunes qui débutaient, comme Rousseau, alors qu'il écrit bien.
Il écrit bien, mais très longtemps, finalement, Voltaire le calcule pas, si vous voulez,
oui,
dans
mais
notre
c'est ça.
Vocabulaire d'aujourd'hui. Oui, et il commence à comprendre, quand il voit la popularité grandir, il a du mal, Voltaire, pendant des années, à imaginer que ça peut être un concurrent. Pour lui, c'est un petit débutant de rien, et il faut pas oublier que Rousseau devient l'auteur du roman le plus lu dans toute l'Europe, qui est un succès de librairie absolument fou. C'est la nouvelle Héloïse, que nous, on ne lit plus beaucoup. Finalement, Voltaire comprend que c'est un concurrent. Et là, il désigne ce livre d'une manière absolument crapuleuse par moment. Il y a quelque chose, si vous voulez, la différence entre les deux. C'est que Rousseau, il s'enflamme. Il devient, parfois il pète les plombs comme ça, et il devient violent. Mais il oublie après, d'une certaine manière, il se calme. Et alors que Voltaire, d'abord moqueur, la première lettre qu'il reçoit, là, ce monsieur je ne vous aime point, il dit il faut lui donner des tisanes, des bouillons, il va pas bien, soignons-le. Mais après, il est blessé, et quand il est blessé, il est teigneux. Mmh. Et pendant des années...
Il rumine pendant des années, oui.
Il rumine et il n'arrête pas d'écrire des textes. Il y a un moment où ça devient quasiment obsessionnel. Il écrit des textes contre Rousseau dans sa correspondance, dans ses journaux, dans des contes, dans des poèmes. Il dit que Rousseau est à la fois un traître, un virolé, un malhonnête, un chien qui mord la main qu'on lui tend, etc. Et il y a eu, je crois, en dehors des blessures personnelles, un grand sentiment de trahison. Mais de trahison philosophique, si vous voulez. C'est parce que il ne faut pas oublier que Rousseau, il a pris finalement le contre-pied des Lumières. C'est le premier, c'est pour ça que c'est aussi très actuel, c'est le premier à dire, attention, le progrès, c'est peut-être pas bien, les sciences, ça peut être dangereux, la technique, ça peut nous détériorer au lieu de nous aider. Et ça, c'est tellement contraire à l'esprit du temps que ça rencontre d'abord de grandes polémiques, un grand écho, et ensuite une opposition farouche de Voltaire qui a le sentiment que Rousseau était des leurs, Diderot, Grimm, d'Alembert, c'était la bande des philosophes, et il se met à dire le contraire. Et du coup, ils ont le sentiment que c'est un traître, il y a des débats entre eux, est-ce qu'on le garde pour montrer que nous sommes finalement tolérants et qu'on accepte des dissidences. Et Voltaire dit non, il faut couper ce bras pourri, c'est la gangrène, il faut l'exclure. Et il y a aussi, en dehors des enjeux narcissiques, personnels, des enjeux philosophiques, d'époque, et qui sont, je crois, toujours actuels.
Mais justement, Roger Paul Droit, aujourd'hui, on les étudie comme deux monuments, ils ont apporté chacun énormément à la philosophie. Est-ce qu'à l'époque, il fallait forcément choisir son camp? Ou est-ce qu'à l'époque, il y a des gens qui aiment à la fois Voltaire et Rousseau? Ou est-ce qu'on était forcément rousseauiste ou voltairien?
On a été forcément après, au XIXe siècle. À l'époque, il y a des camps, il y a des gens qui préfèrent Voltaire et d'autres Rousseau, mais il y a aussi des intermédiaires. D'Alembert est ami des deux, Diderot également. Ils ont un même.
Ils n'essayent pas de les rabibocher, parce qu'ils n'essayent pas de faire les go-between, comme on dirait aujourd'hui,
en
entremetteurs, oui.
Il y en a qui essayent. Il y a d'ailleurs cet épisode de la fin, très très étrange, et où D'Alembert décide, avec Madame Necker, de faire pour Voltaire une souscription pour lui élever une statue. Une statue qui est encore au Louvre, qu'on a demandé à Jean-Baptiste Pigalle, qui était un sculpteur avant d'annuler une place et un métro. À ce moment-là, il y a une souscription nationale et même internationale. Frédéric de Prusse donne de l'argent. Et Rousseau dit... Eh bien, en raison de ma vieille admiration pour Voltaire, je vais donner pour sa statue, malgré tout ce qu'il y a eu entre nous. Impossible de savoir, n'est-ce pas, s'il veut jouer le vertueux, je suis au-dessus de tout ça, s'il le pense vraiment, peu importe. Mais Voltaire refuse. Il dit, ce salaud, je ne veux même pas qu'il donne pour ma statue. Et D'Alembert joue les intermédiaires. D'Alembert cache à Voltaire que Rousseau a donné de l'argent, il cache à Rousseau que Voltaire refuse, voilà, et finalement...
C'est une haine jusqu'à la fin. Vous écrivez, c'est là que début juin, Rousseau apprit la mort de Voltaire le 30 mai à Paris. Il en fut très affecté, il y eut un silence, puis Jean-Jacques murmura, « Mon existence était attachée à la sienne, il est mort, je ne tarderai pas à le suivre. » Ils étaient fâchés à mort, mais une fois Voltaire mort, Rousseau n'était plus fâché. Il est triste et puis il le suit dans la tombe.
Je crois qu'il n'est pas rancunier, et puis peut-être aussi leur détestation mutuelle est-elle un lien?
Un moteur?
Finalement.
Oui, c'est ça.
Ils avaient peu de choses en commun.
Je l'ai trop aimé pour ne point le haïr.
Oui, et je l'ai trop haï pour ne pas l'aimer.
Mais alors, juste, le fait, vous en pensez quoi, Roger Paul Droit? Je m'arrêterai là. Le fait qu'au Panthéon, ils sont l'un face à l'autre, c'est une ironie de l'histoire quand même.
C'est une extraordinaire ironie de l'histoire, et c'est aussi une construction de la Révolution française, puis de la Troisième République. Tout ce qu'on a dit sur leur rivalité. et leur haine. Ça a été très largement gommé. On a fait de Voltaire et de Rousseau les pères fondateurs de la République, de la Révolution, de la France. On a voulu plus les rassembler que les diviser. Mmh.
En tout cas, merci beaucoup Roger Paul-Droit. Je rappelle le titre de votre roman « Monsieur, je ne vous aime point » paru chez Albin Michel et pour lequel vous avez reçu d'ailleurs le prix Montesquieu 2020. Merci beaucoup Roger Paul-Droit.
Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, les coulisses de l'histoire regorgent de surprises, surtout quand c'est Clémentine Portier-Cadenmac qui mène l'enquête, des enquêtes qui l'emmènent parfois assez loin.
J'ai déjà mis mes mains dans les poches d'un pantalon de Napoléon, mais pas dans son slip.
Mais c'est déjà pas mal, serions-nous tentés de dire. Mais voilà, Clémentine ne se contente jamais du minimum. À tout de suite, dans l'intimité de l'histoire.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les après-midi dès 16h dans Historiquement vôtre, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. La preuve, s'il en fallait une, avec Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, qui entreprend la tâche difficile de déterminer depuis quand existe la poignée de main.
Ah, hein. Alors là,
bon, écoutez, alors faut se fier à l'iconographie dont on dispose et on trouve à ce titre, eh bien, des poignées de main dans l'Antiquité grecque sur des stèles du 5e siècle avant Jésus-Christ. Homère mentionne dans l'Iliade la poignée de main comme un geste de paix ou d'allégeance. Mais comme vous et moi, nous sommes friand de péplum, vous avez certainement vu que chez les Romains, alors, se serrer la main est un geste de précaution. Il faut s'assurer que celui d'en face ne cache pas une arme dans sa manche. Pensez à César. Hein. César, assassiné de 23 coups de poignard par des sénateurs, il était bien placé pour savoir qu'on pouvait cacher un poignard dans sa manche assez facilement. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous le savez, mais en Angleterre, entre avocats, on ne se serre jamais la main.
Ah oui,
on se fait un geste cordial de la main, comme ça, parce qu'on est supposé être entre hommes de loi, donc se faire absolument confiance, et on n'a pas besoin de se serrer la main pour voir que le gars d'en face a un couteau dans sa manche. Parce qu'il y avait... Oui, ça a été beaucoup un geste de précaution, la poignée de main. C'est je vérifie que tu n'escamotes pas un poignard. Bon, dès l'avènement du christianisme dans le monde occidental, évidemment, la poignée de main, avant d'être un geste de salutation, elle est sacralisée. C'est dans les grandes circonstances, quand il faut prendre un engagement solennel qu'on donne sa main. Évidemment, le mariage. Quand on se marie, voilà, on échange les anneaux, on se prend la main, évidemment, bien sûr. Et là, chose que vous avez sans doute pratiquée tous les deux, j'imagine, dans le rituel de serment et d'hommage prêté par le vassal à son seigneur. Le vassal à genoux, place ses mains jointes dans celle de son seigneur.
Quand j'arrive à la rédaction et que je m'incline devant
Stéphane.
Il faut
prêter serment de ne pas être trop cruel pendant le quiz.
Vous ne voulez pas que je vous baise la main non plus?
Non, ça ira.
Non,
je vous baise la main. En tout cas, cet hommage-là, il a existé pendant 700 ans. Je devrais faire
toujours.
Plus attention à ce que je dis. Enfin, il y a vraiment une sorte de sacralisation des mains par l'Église. Les mains par les mains, et ben c'est un signe d'engagement.
D'ailleurs, quand
grave.
On mourait, on vous faisait le dans la cire, on mettait votre main. On a toutes les mains des grands hommes. Dans de la cire.
Vraiment, est-ce qu'on prenait
Victor Hugo,
pas...
j'ai sa main.
Ah bah Victor
vous
Hugo,
avez sa main.
J'ai sa main.
Victor Hugo et Chopin,
main,
évidemment, au musée de l'histoire du romantisme, il y a sa main, très belle main, très longue.
En fait, on faisait le masque de tête, le masque mortuaire, et puis aussi, on prenait une empreinte de la main.
Alors peut-être prenait-on davantage l'empreinte de main qui avait écrit, qui avait peint, qui avait joué de la musique, parce que vous voyez, je pense que votre main et la mienne, j'ai quelques...
On peut se la garder.
Je sais pas, j'avais, ça me donnait des idées. ça fait presse-papier, vous savez. C'est très utile après.
Bon, alors, il y a aussi, bien sûr, il y a des façons de se saluer, de se serrer de la poignée de main comme processus d'identification. Par exemple, chez les francs-maçons. Vous savez que les francs-maçons,
ils mettent
les doigts,
ils mettent un doigt
à l'intérieur.
Ils sont un
zigouigoui dans la main, là.
Ils mettent un doigt dans la main.
Mais quand
vous voulez pas me serrer la main.
Mais je veux pas vous serrer la main. Mais j'aimerais vous montrer. Ils mettent quand. Enfin, je sais pas. J'ai jamais.
C'est ça, les gens qui me font guili-guili avec le doigt.
Il y a tout un jeu de doigts, exactement.
Ils sont francs-maçons.
Bien sûr.
Je ne peux pas.
J'ai croisé des francs-maçons. Je savais pas. J'avais pas compris.
Alors là, on fait un zigouigoui avec un doigt spécial à l'intérieur de la main et tout le monde s'identifie. Et puis les autres sont des couillons qui comprennent pas ce qui se passe. Alors il y a aussi le top là entre marchands. Bien sûr, c'est un peu comme une poignée de main. C'est une façon de sceller un accord. Alors, sachez, il y a deux poignées de main qui sont particulièrement connu dans le monde entier, la française et le shake-hand à l'anglaise. Alors nous, les Français, on se serre la main à tout bout de champ, hein, on se serre la main, puis alors on peut se dire plein de trucs, on se dit « Ah ben, comment allez-vous ? Enchanté, ravi, cher monsieur », puis on se serre la main et on se resserre la main. Tandis que les Anglais, ils se secouent la main en disant « How do you do ?» et puis la poignée de main est donnée une fois pour toutes quand on se rencontre.
C'est-à-dire qu'une fois que vous rencontrez quelqu'un en France, vous n'allez pas lui resserrer la main chaque fois que vous lui parlez.
Ben si. Si vous arrivez le matin, vous rencontrez quelqu'un, vous serrez la main. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? En Angleterre, on considère qu'on se serre la main, puis après, c'est oh, do you do? Oh, do. Ben, ils n'aiment pas tellement se toucher, les Anglais.
On apprend vraiment plein de choses aujourd'hui. Hein.
Enfin,
j'aurais jamais dû choisir cette thématique. C'est une catastrophe.
Jeu de vilain.
Bon, écoutez, en tout cas, sachez que jusqu'à la Révolution française, la poignée de main se pratiquait que dans la noblesse et la grande bourgeoisie. Dans le peuple, on se donnait plutôt des accolades, des embrassades. Et la poignée de main à l'anglaise devient à la mode en France à la fin du 18e. Et c'est Voltaire qui en parle en disant ça, c'est une des pratiques de l'anglomanie. Et c'est Marie-Antoinette qui aurait vu Lucie de Dillon faire un chèque au duc de Dorset, ambassadeur d'Angleterre. Elle voit ça, elle trouve ça très amusant, elle se met à le pratiquer. Bon, elle n'aura pas tellement le temps de le faire parce que cette anecdote du duc de Dillon de Lucy Dillon et de l'ambassadeur d'Angleterre date de 1787. Mais c'est après ça que le check-hand a commencé à se propager. Alors, arrive la Révolution. Et là, évidemment, la poignée de main se démocratise. Si vous regardez le tableau qui représente le serment du jeu de paume, on se serre la main. Le tableau entre clergé et tiers état, ce qui ne se serait jamais fait avant. L'étoile qui représente la nuit du 4 août, abolition des privilèges, les personnages aussi se serrent la main. Ce geste est devenu populaire. En se serrant la main, on se met en position d'égal à égal. C'est l'idée d'égalité entre les sujets. Alors, on abandonne un système dans lequel on fait la révérence dans une hiérarchie.
Où on baise la main, ce qui était le cas avant.
Où on baise la main. Alors, en tout cas, ça prendra du temps pour que la poignée de main devienne une évidence. On atteste cette scène dans Madame Bovary. Donc ça, c'est 60 ans après la Révolution française. Ils s'avancèrent l'un vers l'autre. Il tendit la main. Elle hésita. « À l'anglaise, donc, fit-elle en abandonnant la sienne. » Après quoi, la poignée de main, bien sûr, elle rentre dans les usages diplomatiques, et puis les poignées de main deviennent historiques, elles ont les feux de la rampe, poignée de main entre Ribbentrop et Molotov en 39, poignée de main entre le pape Jean-Paul II et Mikhail Gorbatchev en 89, la fameuse poignée de main entre Kohl et Mitterrand au moment de l'anniversaire de la fin de la guerre de 14. Toutes les poignées de main, maintenant, sont très médiatisées. Il n'y a pas un chef d'État qui n'est pas pris en photo en train de serrer la main de notre président sur le perron de l'Élysée. C'est devenu un rituel obligatoire. Mais enfin, pour en revenir, puisque vos deux personnages majeurs étaient l'inimitié entre Voltaire et Rousseau, tout à l'heure, je voudrais finir par une anecdote autour de Voltaire. Un jour, se promenant avec lui, un ami de Voltaire voit le philosophe saluer respectueusement le prêtre que tous deux venaient de croiser en chemin. Interloqué, cet ami demande à Voltaire « Vous seriez-vous enfin réconcilié avec Dieu ?» Et le philosophe lui répond « Nous nous saluons, mais nous ne nous parlons pas. » Sur ce, namasté, vénérables animateurs.
Oh, merci Clémentine.
Et vous restez avec nous, vous saviez déjà beaucoup de choses lorsque vous êtes arrivé dans cette équipe, mais vous ne saviez pas qu'il existait une saucisse plus longue que la Galerie des Glaces.
Bah non, j'ai la loose en ce
moment.
Et
non, seul le quiz peut vous apporter des connaissances aussi décisives. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque jour, vers 5h-10, c'est la rencontre de deux esprits différents. Des gens bizarres, j'en ai croisé dans ce métier, mais Clémentine Portier-Kaltenbach et Stéphane Bern ont tissé une relation où la bizarrerie, notamment de leur centre d'intérêt, va tellement loin qu'au téléphone, ils peuvent se dire ce genre de choses.
Est-ce que tu as vu, il y a un livre qui vient de sortir de Frédéric de Saint-Sernin?
Non.
Qui s'appelle « Zouave au service du pape ».
Ah, c'est pas vrai.
Bon, les tourtereaux givrés, vous prendrez une chambre quand les hôtels auront ouvert? Jouons ensemble à Perm to be alive, notre quiz. Stéphane, première question pour vous. Edith Piaf, dont on a parlé, nous a quittés, souvenez-vous, la veille de Jean Cocteau.
En 63.
Exactement. On sait qu'en France, les femmes ont eu assez tardivement le droit d'avoir un compte bancaire. Est-ce que cette bonne vieille Edith a vécu suffisamment longtemps pour jouir de ce droit.
Attendez,
oui ou non ?
C'est ces années-là, évidemment, mais je crois que c'est après. Je
qu'est-ce
crois que c'est juste le compte-chèque pour les femmes,
oui,
sans l'avis de leur mari, c'est juste après cela. Parce que,
donc Edith Piaf n'a jamais pu avoir son
non,
compte bancaire.
Elle a, je ne ouais, crois
je sais pas.
Pas
pourquoi je montre, c'est pas 67.
Je crois que c'est oui, ou 65. Je crois que c'est après.
Découvrons la réponse.
Vous avez gagné.
Et si j'étais élégant, j'offrirais même un point bonus à Stéphane. Je ne le ferais pas, mais vous avez donné la date.
Oui, 65.
Edith nous a quittés en octobre 63. Les femmes ont le droit d'ouvrir un compte sans l'aval de leur époux depuis juillet 1965, bravo, ouais. Stéphane Bern.
J'ai même donné la date.
Oh là là, il a donné
ça
la date.
Songeur.
Ça, voilà, ça vaut un point supplémentaire.
Oui. Et sans regarder son téléphone, mais que non, j'ai confisqué désormais.
Oui. C'est fou, c'est 65. Pff.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Au Danemark, après la Seconde Guerre mondiale, pour rendre les plages plus sûres, on a lâché plus de 2000 broholmer sur les plages, des chiens très affectueux, originaires du pays, qui étaient très contents d'aller jouer au ballon sur le sable. C'est cruel, mais surtout, est-ce que c'est vrai ?
Après la guerre ?
Après la Seconde Guerre mondiale. Écoutez bien la formulation de la question. Oui. Pour rendre les plages plus sûres.
Oui, on les envoyait comme des mineurs. On préférait faire sauter les chiens que les individus.
C'est la question que je pose.
Ça aurait été extrêmement cruel, mais
ça
il est probable.
Ça aurait été vraiment dégueulasse, on peut le dire.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais entre deux mots, je pense qu'on ait pu utiliser des chiens comme des mineurs plutôt que des hommes. Mmh. Je pense que oui, c'est possible.
Même si ça serait atroce quand même.
J'ai du mal à croire qu'on ait pu envoyer des hordes de chiens, ça oui. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Vous allez dire après.
Ça donne une réponse quand même.
Ouais. Écoutons la réponse.
Vous avez perdu.
Vous avez perdu, Clémentine. Heureusement, vous devez bien que les Danois ne sont pas aussi cruels. Ils n'ont pas envoyé des chiens, ils ont envoyé des Allemands. 2000 soldats allemands. On estime que parmi ces prisonniers, la moitié ont perdu la vie. C'était de très jeunes soldats qui ne connaissaient pas grand-chose aux techniques du déminage. On leur a demandé d'aller sur la plage et de se débrouiller pour neutraliser les bombes. Voilà, c'est encore plus affreux que ce que vous imaginiez.
Je suis vraiment une ravie de la crèche, vous avez raison.
Bah, si les chiens étaient sauvés, c'est quand même...
C'est bien dit, Stéphane, oui.
Question numéro 3. L'amitié franco-allemande fait encore un bond cet après-midi sur Europe 1. Grâce à Stéphane.
Vous êtes de l'humour.
Évidemment.
Vous savez qu'historiquement, vous êtes une émission d'humour aussi.
Évidemment. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. On le sait, sauf Claude Allègre, la Terre se réchauffe. Mais au fil du temps et de l'histoire de l'humanité, le corps humain, lui, se refroidit. Vrai ou faux ? Ah là, je vous sens perplexe, Stéphane. Ça, je sens que vous n'avez jamais abordé ce sujet.
Bonne question. Est-ce qu'on ne se serait pas progressivement adapté au fait qu'on est vêtu ?
Oui, on s'est adapté, donc on s'est réchauffé, vous voulez dire ?
Non, on se serait au contraire, notre température aurait baissé.
Oui, c'est très possible.
Donc vous dites ?
Je vais suivre Clémentine.
Donc la Terre se réchauffe, mais au fil du temps et de l'histoire de l'humanité, le corps humain, lui, se refroidit ?
Oui, je dis ça, oui.
Vous avez...
C'est le succès pour Stéphane. Ouais, vrai, on a coutume de dire, mais avec un raisonnement, le raisonnement était signé Clémentine, la réponse était signée Stéphane. Vrai, on a coutume de dire que le corps fait 37 degrés, mais cette référence date de 1851. Depuis, on constate un refroidissement de 0,59 degrés pour les hommes, 0,32 pour les femmes. L'explication, l'amélioration de l'hygiène de vie. Ouais. Tout simplement, et ça vous ne le saviez pas. Clémentine, attention, dernière question pour vous. C'est grâce à Al Capone qu'aux États-Unis, il y a des dates limites de consommation sur les bouteilles de lait. Ouais. Vrai ou faux ?
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'Al Capone était dans l'immobilier, non ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il aurait trafiqué de l'alcool dans des bouteilles de lait et que...
C'est ça date de la prohibition, j'imagine.
Oui, mais pourquoi sur les bouteilles de lait ?
Oui et non.
Moi, je pense que c'est vrai. Oh, de toute façon, je suis au fond du trou. Là.
Oh, vous êtes au fond du trou,
non,
vous raccrochez comme ça la première réponse qui vous vient.
Vous avez gagné.
N'hésitez pas à ne pas réfléchir avant de répondre, ça marche à tous les coups. Vrai, en 1929, la prohibition prend fin, mais c'est la crise. Al Capone se lance alors dans le business du lait. Des curés se plaignent qu'on leur livre des bouteilles de lait qui ont tourné. Al Capone prévient les patrons du syndicat laitier que si l'un d'entre eux refuse de mettre une date limite de consommation, il ira, je cite, « dormir avec les poissons ». Du coup, tout le monde obéit à Al Capone.
Ah, c'est marrant,
la date limite de consommation
super.
Est née. C'est une victoire, une de plus, et sans tricherie sous la table de Stéphane Bern. Bravo Stéphane.
Merci, mais restons modestes. Demain est un autre jour.
On dirait que vous parlez comme un sportif. Alors.
Oui, voilà, exactement.
Le terrain était trop lourd.
h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Se divertir tout en s'instruisant sans jamais aller jusqu'à se froisser un neurone. Une élongation est si vite arrivée. Vous écoutez Historiquement vôtre.
Oui, Mathieu, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter autour de trois personnages. Enfin, normalement, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez rappelé, ils sont six. On évoque les duos fâchés à mort de l'histoire. Après Voltaire et Rousseau, je vais vous raconter la discorde entre deux autres amis, John Fitzgerald Kennedy et Frank Sinatra, Fashing to the Moon. J'ai trouvé que ça.
Ah oui, mais vous avez bien cherché, visiblement.
Plus proche de nous, Mathieu, dans votre portrait, qui sera 99% vrai, vous nous parlerez de deux frères aux relations assez conflictuelles.
Oui, c'est-à-dire que normalement, les frères se chamaillent jusqu'à l'âge de 15-16 ans, et puis après, ça se tasse. Ça ne s'est jamais tassé pour Liam et Noël Gallagher, les fondateurs du groupe Oasis, qui, à bientôt 50 balais, continuent de se foutre joyeusement sur la gueule. À nos côtés également pour cette deuxième heure, un duo fragile qui pourrait, comme les frères Gallagher, basculer dans la violence, notamment si Olivier Pouls continue de se foutre de la gueule des racines portugaises de David Castello-Lopez.
J'avais un petit problème avec Dr Maboul, c'est que j'y avais jamais joué de ma vie.
Mais comment?
Ça n'existait pas au Portugal? Dr Maboul?
J'en tiens un, vous donnez l'autre, Stéphane, ça va déraper un séjour.
Mais là, aujourd'hui, David Castello-Lopez nous raconte le moment où les duels ont disparu.
Oui, que tout le monde se battait en duel.
Ils ont été interdits.
Plus personne se bat en duel aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux?
Et puis, avec Olivier Pouls, on va parler alors d'une... C'est pas portugaise, hein, c'est
non,
cliché.
Non, c'est pas portugaise, c'est l'Amérique du Sud.
Là, on a cherché un accent, mais on sait pas trop où on l'a cherché. C'est-à-dire que là, David se prend la tête dans les mains, il est effaré. Ça vient d'où, le ceviche?
Ceviche, ça vient du Pérou, figurez-vous. Et je vous en raconterai l'histoire millénaire.
Et enfin, le mot de la fin, ou plusieurs mots de la fin aujourd'hui pour vous, Stéphane.
Oui, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais d'où vient la gamme?
Oh, vous l'avez chanté, il a chanté son teasing.
Et toutes les notes de la gamme étaient les mêmes. Je ne sais pas si vous avez...
Oh, ça frise l'insolence. Je crois que le duel pourrait finalement
vous
revenir.
Vous passerez à la compta, David Castello-Lopez, pour votre solde de tout compte.
Mais comment d'ailleurs on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do en portugais?
Ah, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ouais, c'est vraiment pareil, quoi.
Alléchant programme, mais pour commencer, les amis, découvrons l'inimitié étonnante qui opposait Frank Sinatra à John Fitzgerald Kennedy.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
L'un était le plus glamour des présidents américains au triste destin, l'autre le crooner le plus célèbre des années 60. On ne connaissait pas forcément leur amitié, on va découvrir qu'elle a pourtant vite laissé place à une véritable haine recuite entre ces deux hommes. Stéphane Bern nous raconte John Fitzgerald Kennedy et Frank Sinatra.
En mars 1962, le président Kennedy prévoit de passer un week-end à Palm Springs, en Californie. Il doit dormir dans la fabuleuse villa du chanteur Frank Sinatra, avec qui il est ami depuis quelques années. Pour accueillir son président, Sinatra agrandit sa villa, ajoute des lignes téléphoniques et fait même construire un héliport. Mais au dernier moment, on le prévient que JFK ne viendra finalement pas chez lui.
Ah oui, ça, c'est
en apprenant la nouvelle,
forcément, je comprends tout là.
Frank Sinatra voit rouge. De rage, il casse le téléphone et entreprend de détruire la dalle en béton de son héliport flambant neuf. Pour comprendre ce terrible accès de fureur, il faut remonter aux années 50, quand Frank Sinatra et John Fitzgerald Kennedy se rencontrent via des connaissances communes. Frank Sinatra est alors au fait de sa gloire. Âgé d'une quarantaine d'années, il est le crooner le plus célèbre d'Amérique et ses disques tournent sur tous les tépas avec des tubes comme le célèbre Come Fly With Me.
Come fly with me, let's fly away.
C'est beau, hein?
C'est beau, non?
Moi, je préfère Strangers in the Night. C'est ce que j'aurais choisi.
C'est bien aussi.
Oui, c'est bien aussi. Alors, son élégance, ses yeux bleus glaciers ont aussi séduit Hollywood, puisqu'en 1953, il remporte l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation dans le film Tant qu'il y aura des hommes. Pourtant, le réalisateur, lui, n'avait pas été séduit et aurait été obligé de prendre Sinatra après avoir reçu des menaces. Oui, parce que, oui, voyez-vous, Mathieu, Frank Sinatra était très proche de la mafia. De son côté, John Fitzgerald Kennedy est issu d'une famille américaine, riche et puissante, qui le destine à une carrière politique. Il n'a pas encore 40 ans quand, en 1953, il est élu sénateur du Massachusetts. JFK est jeune, charismatique, son père a de grandes ambitions pour lui. Il le prépare, vous vous en doutez, à accéder à la présidence des États-Unis d'Amérique. Quand ils se rencontrent avant les élections de 1960, les deux hommes sont donc célèbres, constamment entourés d'une cour d'admirateurs, surtout d'admiratrices. JFK est régulièrement invité en Floride, à Palm Beach, dans la villa de Frank Sinatra, où l'on mène la Dolce Vita. Les après-midi se passent au bord de la piscine à siroter des cocktails, et le soir venu, des prostituées font leur entrée pour divertir les invités. Rapidement, Frank Sinatra devient très proche de Kennedy. Quand JFK est nommé candidat démocrate aux élections présidentielles américaines, Sinatra affiche son soutien, appelle à voter lors de ses concerts et donne volontiers plusieurs interviews. Vous l'avez compris, pour JFK, Frank Sinatra irait même jusqu'à la Lune. Fly me to the moon. Let me play. Dans cette relation, chacun trouve son intérêt. Frank Sinatra rêve de devenir l'ami d'un président et JFK sait que la star a des amitiés moins visibles qui peuvent lui être utiles. Sinatra est notamment proche de Charlie Luciano, l'un des plus redoutables gangsters du XXe siècle, qui vient du même petit village que lui en Sicile. Sauf qu'il est devenu chef de la pègre new-yorkaise. Frank Sinatra joue-t-il les intermédiaires ? Toujours est-il que lors des élections de 1960, la mafia achète des milliers de votes en faveur de JFK. C'est une période faste pour Kennedy qui non seulement devient président, mais affiche aussi une nouvelle maîtresse dont il est fou amoureux. Elle a de grands yeux noirs, elle s'appelle Judith Campbell, et cette demoiselle est aussi l'ex-amante de Frank Sinatra.
Comme le monde quoi. Est petit.
Décidément, les deux hommes partagent tout. Sans doute, Sinatra s'imagine-t-il déjà avoir ses entrées à la Maison Blanche. D'ailleurs, c'est lui qui est chargé d'organiser un gala pour l'investiture du nouveau président. À la fin du show, JFK monte sur scène et remercie son ami qui se tient dans la loge présidentielle aux côtés honneur suprême de Jackie Kennedy. Avec ces quelques mots, « J'ai conscience de la dette que nous avons tous envers mon grand ami Frank Sinatra. » Vous n'imaginez pas le travail qu'il a accompli pour que cette soirée ait lieu. Frank Sinatra est si fier que l'histoire raconte qu'il aurait fait graver ce discours sur un disque. Mais les mois passent et JFK prend ses distances. Contrairement à ce que Frank Sinatra espérait, il est rarement invité à la Maison Blanche. Oh, la raison est simple. JFK n'a plus besoin de lui, ni de ses encombrants amis. Il veut se débarrasser de cette amitié devenue un peu gênante. Frank Sinatra a mauvaise réputation, il est vraiment trop proche de la mafia. Désormais, tout le monde le sait. Au début de l'année 1962, à l'occasion d'un voyage officiel sur la côte ouest, JFK prévoit de passer quelques jours à Palm Springs chez Frank Sinatra. Ce dernier, je vous l'ai dit, dépense des sommes astronomiques pour préparer sa maison à l'arrivée du président. Mais au dernier moment, JFK lui pose un lapin. Finalement, il retourne dans le ranch du chanteur Bing Crosby. C'est Bobby Kennedy, le frère de JFK, qui l'a dissuadé d'aller chez lui. Il persuade aussi JFK de rompre tout lien avec la mafia et de faire le tri dans ses fréquentations, à commencer par Frank Sinatra. Sinatra est furieux et la rupture est consommée. Mais le clan Kennedy ne laisse pas tout à fait tomber Sinatra. Au début des années 60, le FBI déclare une guerre sans merci à la mafia. Bobby Kennedy, qui dirige le département de la justice, met Frank Sinatra à l'abri de poursuites judiciaires. Après cela, Sinatra et JFK resteront à distance l'un de l'autre et ne se reverront pas jusqu'à l'assassinat du président américain le 22 novembre 1963. Dans les années 60, Frank Sinatra enregistre ses deux plus grands succès. Strangers in the Night en 1966.
Voilà.
Oui.
Oui, on va l'entendre.
Puis non. My Way en 1969.
Vous n'avez vraiment pas de chance avec les chansons, Stéphane. Je vous l'enverrai en MP3.
Mais j'adore My Way. Après la disparition du président JFK, Frank Sinatra reste proche du pouvoir, mais il n'a plus le Parti démocrate dans la peau. I've got you under my skin. I've got you. Et voyez, à cause de cette fâcherie, bah, il passe chez les Républicains et rejoint Richard Nixon lors des élections présidentielles américaines de 1972, puis soutient activement la campagne de son autre ami républicain, Ronald Reagan.
Ah oui, il est passé vraiment.
Reagan est élu président des États-Unis. De 1980 à 1989, Frank Sinatra, qui a plus de 70 ans, vit enfin l'une de ses plus grandes ambitions dans la vie. Génial. Il peut entrer à la Maison Blanche presque quand il le souhaite. Et oui, il a le double des clés. À sa mort, le 14 mai 1998, c'est la consécration. Bien qu'il n'ait pas servi dans l'armée américaine, des honneurs militaires sont rendus à Frank Sinatra et une lettre du 42e président des États-Unis, Bill Clinton, est lue lors de ses funérailles. Sinatra fait partie de ceux qui peuvent se targuer d'avoir côtoyé plusieurs présidents américains, même si le premier était certainement son préféré.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de cet étonnant duo, encore plus étonnant que nous, Stéphane, à savoir John Fitzgerald Kennedy et Sinatra, nous sommes avec l'écrivain Georges Ayache. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié de très nombreux ouvrages consacrés à l'Amérique, parmi lesquels Frank Sinatra, La Voix de l'Amérique. On en parle avec vous dans un instant.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos fâchés à mort de l'histoire. Continuez, Stéphane, c'est pour vous.
Strangers in the night. Ah, merci,
enfin,
Mathieu.
Je sais, vous vous sentez frustré de ne pas l'avoir entendu alors qu'on parlait de Frank Sinatra et de son inimitié terrible avec John Fitzgerald Kennedy. On en parle avec notre invité, Georges Ayache.
Oui, Georges Ayache, vous êtes écrivain, politologue et avocat, historien de formation. Vous avez publié de très nombreux ouvrages consacrés à l'Amérique, parmi lesquels Frank Sinatra, La Voix de l'Amérique, Kennedy, Vérités et Légendes, ou encore JFK, Une histoire sexuelle. Là, l'histoire n'est pas sexuelle, mais simplement amicale. C'est une véritable amitié sincère ou dès le départ une amitié intéressée de part et d'autre?
Je vais d'abord vous décevoir, parce que l'amitié dans les milieux politiques, comme dans les milieux du showbiz, c'est quelque chose de très relatif.
Donc, là, j'ai été douché, vous voyez, là je suis terriblement, oui, mes illusions se sont envolées. Mais au fond, ils étaient très proches aussi, c'est-à-dire que ils avaient la même ambition, la soif d'arriver, cette ambition politique, et puis l'amour des femmes. D'ailleurs, je l'ai raconté, Mademoiselle Campbell ou Madame Campbell avait servi dans les deux corps, hein. Enfin plutôt les deux avaient servi dans le même corps.
Non, vous avez raison. Vous avez raison. Ce qui les rapproche, ce sont les femmes, mais aussi une double attraction. Kennedy a toujours été attiré par le show business, par le spectacle, par le paraître. Sinatra, lui, aimait le pouvoir. Par conséquent, ils étaient faits pour s'entendre. D'une manière ou d'une autre, ils étaient complémentaires.
Dans votre livre, JFK, une histoire sexuelle, c'est celui que j'ai lu, vous présentez JFK comme un obsédé sexuel. C'est le pouvoir qui l'a rendu comme ça, John Fitzgerald Kennedy, ou bien ça commence avant, en fait?
Non, il y a deux éléments dans cette histoire. D'une part, la tradition familiale, si j'ose dire.
Ah bah oui,
son père Joe faisait des siennes, et c'était inénarrable. Mais ce qu'il y avait en plus chez Jack, puisque c'est le surnom de John, il y avait la maladie. Il avait notamment la maladie d'Addison, et une maladie qui se traitait à base d'une sorte de mélange de médications qui avait un triple effet, dont celui d'hypertrophier la libido.
Ah oui,
donc
il ne
pouvait
oui,
pas s'empêcher d'avoir des femmes. Ah oui. Il y avait une raison médicale, c'était un malheureux, c'était un homme qui a souffert énormément.
Excusez-moi, c'était pour des raisons médicales.
Madame, monsieur le juge.
au-delà de la gaudriole, oui. Il y avait cet élément-là qui a joué
sûr,
et qui l'a rendu obsédé. Oui. C'est un malade, c'est un cas pathologique.
C'est un cas pathologique.
Un mot peut-être sur les liens de Sinatra avec la mafia. À l'époque, on le savait, c'était de notoriété, ou c'est plus tard qu'on a découvert à quel point il était lié?
On s'en doutait, mais de toute façon, ce qui était de notoriété publique, c'est que tous les artistes, qu'ils soient de Broadway ou d'Hollywood, oui, devaient passer d'une manière ou d'une autre sous les fourches codines de la mafia. Ils contrôlaient tout. Ils contrôlaient les salles de spectacle, ils contrôlaient les casinos Palace à Las Vegas. Et donc, si vraiment quelqu'un voulait faire carrière, il n'avait pas intérêt à se mettre à dos la mafia.
Mais est-ce que vraiment Frank Sinatra lui a été utile dans cette histoire pour arriver au pouvoir en 1960? Et est-ce que la mafia jouait un rôle dans l'élection?
Alors d'abord, la mafia a joué un rôle dans l'élection, un rôle majeur, puisque pratiquement, je pense, c'est ma théorie, ils ont inversé le résultat de l'élection sur deux états clés, dont l'Illinois avec Chicago.
Ça, c'est...
Deuxième point, Sinatra a joué un rôle d'intermédiaire entre la mafia et les Kennedy. D'autant plus que les Kennedy ne voulaient pas trop se mouiller, trop se compromettre en s'affichant avec la mafia. Sinatra a joué ce rôle-là.
En tout cas, Sinatra, est-ce que vous pensez qu'il est passé du côté des Républicains, les démocrates...
Parce qu'il voulait aller à la Maison Blanche,
oui, c'est ça,
vous nous l'avez expliqué,
mais
Stéphane. Il
voulait d'abord, il rêvait d'être invité à
c'était
dîner.
C'était vraiment son rêve.
Mais
quoi.
C'est ridicule. Mais est-ce que c'est un amour blessé, donc déçu, et du coup il a changé de bord, politiquement?
Alors sur les points que vous évoquez, d'abord le fait qu'il veuille aller à la Maison Blanche, c'est pas simplement une lubie, un caprice. Hein. Mm-hmm. C'est Sinatra qui a insisté pour que la mafia soutienne Kennedy. Il s'est mouillé donc à leur égard. Et la contrepartie, c'était que Kennedy est une politique un peu amène envers les mafieux. Et c'est la raison pour laquelle Sinatra, voulant rester en bon contact avec les gens de la mafia, a fait croire que Kennedy lui était très proche. Et donc le fait d'aller à la Maison Blanche, ça ne pouvait que conforter cette image d'une proximité entre Sinatra et les Kennedy. Or, c'est pas ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit. Les Kennedy, au contraire, se sont distanciés terriblement de Sinatra et il a perdu son prestige de tous les côtés.
En tout cas, c'est passionnant, parce que vous connaissez bien les dessous des cartes, Georges Ayache. Je signale que vous venez de publier La chute de Nixon chez Perrin, un autre président. Merci, Georges Ayache.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on tente de réconcilier ces personnages de l'histoire qui sont fâchés à mort. Bon, on a échoué avec Voltaire et Rousseau, même s'ils se regardent maintenant face à face au Panthéon. On a encore échoué avec Frank Sinatra et JFK, mais la lumière viendra peut-être de Mathieu Noël dans 99% vrai, le portrait aujourd'hui des frères ennemis du rock, Liam et Noël Gallagher.
La lumière viendra peut-être de Mathieu Noël. Déjà, quand on se propose de faire quelque chose et qu'on mise là-dessus, c'est qu'on est mal parti. Désolé pour le suspense, effectivement, je ne vois pas trop comment je parviendrai à réconcilier les deux membres du groupe Oasis, Liam et Noël Gallagher. En plus, j'ai forcément une préférence pour celui qui s'appelle Noël. Et puis, ça fait 48 ans qu'ils se haïssent. Même le succès ne les a pas mis d'accord, au contraire. Alors déjà, on va pas refaire ici la discographie d'Oasis. Tout le monde connaît quand même le groupe de rock anglais mythique des années 90.
Bah oui.
Stéphane, votre tube préféré d'Oasis?
Jicomère, okay. Chérie.
Olivier. Et tous les auditeurs qui ont moins de 45 ans et un minimum de goût, effectivement Stéphane, Oasis, c'est des tubes qu'on a énormément aimés. À la radio, en concert, et des tubes qu'avec David, on a aussi énormément subis. Sur la plage, l'été à Guétari, quand Kevin Bardounet, avec ses putains de cheveux longs et son putain de look de surfeur californien, a pécho Massandra et sa Constance en jouant hyper mal pourtant Wonderwall avec sa putain de guitare acoustique. Funestes souvenirs estivaux, reste la question, comment de si bons musiciens, si poètes, si sensibles, si délicats, je parle de Liam et Noël Gallagher, pas de cette crevure de Kevin Bardounet, peuvent-ils être aussi infects et immatures l'un envers l'autre? Tout commence dans les années 70, dans la banlieue de Manchester. Oui, c'est comme ça que je vois la banlieue de Manchester dans les années 70. Ce à quoi j'ajouterais même...
Ça peut l'air...
C'est là que vivent les Gallagher. Liam, dans un documentaire retraçant sa vie, croit mettre le doigt sur l'origine de leur légendaire inimitié. Une anecdote fondatrice qui remonte à l'époque où ils partagent encore la même chambre. Un soir, je suis arrivé bourré et je ne trouvais pas l'interrupteur. J'ai donc pissé sur cette toute nouvelle chaîne stéréo. Je crois que le conflit vient de là. Tu crois, Liam ? Préparez-vous, Stéphane, car comme dans Game of Thrones, ce n'est pas l'épisode 1 le plus choquant.
Ah non.
Il y a même un prequel, la mère des deux petits mondes, la joliment nommée Peggy Gallagher, qui comme moi prend visiblement fait et cause pour Noël, déclare « C'est Liam, dès qu'il est né, il a commencé à tirer la couverture à lui. » The Little Cocksucker, aurait-elle ajouté. Musicalement, l'histoire d'Oasis débute dans un pub de Manchester où Liam, qui a alors 19 ans, vient de remplacer au pied levé le chanteur d'un groupe baptisé The Rain. On n'a pas eu à chercher très loin l'inspiration. Le groupe devient Oasis, fait la tournée des pubs, et un soir, Noël vient voir jouer son frère et propose au groupe de devenir leur leader, avec pour condition d'avoir le contrôle absolu sur les compositions. Pour une raison absolument absurde, qu'on pourrait aussi appeler vodka, Liam et son groupe acceptent. Après 2 ans de tournée, Oasis signe en 93 avec Creation Records et le groupe part aux États-Unis pour leur première tournée américaine. So long chicken pie, hello cheeseburger. Seulement voilà, à cause de leur fort tempérament, l'American Dream tourne au vinaigre. Un soir, en effet, Liam se présente sur scène rôti aux amphétamines. Noël, qui a un peu de respect pour le public, le gronde. Liam, ne trouvant pas l'argument logique qu'à lui lancer à la gueule, renonce à lui envoyer un argument et lui envoie un tambourin à la gueule. Vous constaterez au long de ce récit que Liam est projectophile, c'est-à-dire qu'il adore lancer des trucs au hasard en improvisant avec ce qu'il a sous la main. Et puis, il est boudeur, le Liam, boudeur et taquin. Durant le reste de la tournée, il va s'amuser à pourrir les chansons écrites par son frère en modifiant en live les paroles. Tout le monde allume les briquets sur Wonderwall et soudain...
T'as le loup coco, t'as le loup qui te colle à la peau, t'as pas le loup.
Ah oui, c'était vraiment, vraiment de la gueule du monde. Hein. Noël craque. Une chaise vole, les frérots se mettent sur la gueule, Nono quitte la tournée. Puis, en 95, Noël change d'avis, comme ça sera le cas une bonne soixantaine de fois au cours de sa carrière, il réintègre le groupe. Pour lui, Liam, c'est comme une ex toxique pour nous, vous voyez. On sait qu'il ne faut pas y retourner, mais bizarrement, passé 2h du matin, on décide quand même de lui envoyer le petit SMS de réconciliation avec une aubergine et un petit singe qui se cache les yeux. Bref, Oasis repart en studio, mais de manière surprenante, une nouvelle dispute éclate durant l'enregistrement de leur second album, le plus culte, Morning Glory, vous savez ce que ça signifie Stéphane ?
Gloire du matin.
Oui, ça doit être certainement une chanson de messe. Un matin, Noël signifie à Liam...
C'est quand vous rendez grâce à Dieu.
Oui, c'est un petit peu ça, ou simplement avoir une petite érection matinale. Un matin, Noël signifie à Liam qu'il ne supporte plus de le voir débarquer en studio, torché avec ses potes, et ils en viennent aux mains, puis les mains ne suffisant plus, ils passent au bat de cricket. Le problème, c'est que leur détestation réciproque devient publique, ça peut nuire considérablement à leur carrière, mais... Comment tenter d'apaiser une relation conflictuelle avec quelqu'un qui nous est proche, Stéphane ? Eh bien, se liguer contre une tierce personne. C'est ce que tentent faire les frangins en canalisant leur haine contre leur rivaux, le groupe Blur. Oui, vous vous souvenez du groupe Blur, Stéphane, pas plus que Oasis, visiblement. Les déclarations désobligeantes fusent, tout en nuances. Pour Liam, le leader de Blur, Damon Albarn, est, je cite, « un branleur à la tête d'un groupe de merde ». Quand Noël, toujours le sage, hein, le pondéré Noël, et il déclare qu'il aimerait voir le bassiste de Blur crever du sida. Ah, magie du rock anglais, on savait vivre à l'époque. Malheureusement, en dépit de ses louables efforts, Liam et Noël se redisputent. Une tournée aux États-Unis est avortée. Les frérots se retrouvent en 2000 à Barcelone pour enterrer l'âge de guerre. Sans surprise, que fait Liam ? Réponse A, de la peinture sur soi. Réponse B, une tortilla maison pour que le groupe pour apaiser les esprits dans le groupe. Ou réponse C, il se met une arme cuite à la sangria, cuite à suite à laquelle il annonce au journaliste que son frère est cocu et que sa fille n'est pas sa fille.
Oh, ça me paraît bien. Oui.
Bien vu, réponse C. Mais alors que fait Noël, Stéphane ? A, il donne à son frère du citrate de bétaïne et l'aide à gagner son lit pour cuver sa sangria. Réponse B, il admet gaiement qu'en effet sa fille est sans doute bien trop belle pour être son enfant, mais c'est pas grave, il l'aime. Ou réponse C, Noël renverse Liam et lui fend la lèvre avec un chandelier.
Ça me paraît bien aussi.
Bingo, réponse C à nouveau, Noël quitte la tournée, mais à nouveau, quelques semaines après, il revient. Cette histoire lui restera quand même en travers de la gorge, puisque 5 ans plus tard, il déclare au magazine GQ « Je ne lui ai jamais pardonné. Liam est la personne la plus en colère que vous puissiez imaginer. C'est un homme avec une fourchette dans un monde de soupe. » C'est là qu'on voit, on retrouve quand même la fille. C'est des poètes quand même. Oui, hein. Oui.
Surtout Noël.
Un homme avec une fourchette dans un monde. Surtout Noël, exactement. C'est en 2009, chez nous en France, dans les coulisses de Rock en Seine, que survient la chamaillerie de trop. Le groupe se sépare pour de bon et définitivement, plantant magistralement tous leurs fans. En 2015, le conflit passe en mode 2.0. Liam se répand en message de haine sur Twitter contre Noël, qui vient de former un nouveau groupe. Je vous cite ma préférée. Just because you have a saxophone in your new album, you think you're Pink Floyd, but you're just another prick in the wall. Donc juste parce que t'as un saxophone dans ton nouveau groupe, tu penses que t'es Pink Floyd, tout le monde sait que tu n'es qu'un autre idiot sur le mur. Ça sonne moins bien en français, mais c'était drôle en anglais. Vexé comme un pouls, Noël annonce alors qu'il compte désormais chanter certains tubes d'Oasis dans ses concerts solo. Après tout, ce sont mes chansons, je les ai écrites tout seul, dit-il. Tweet de Liam, je peux et je pourrais chanter n'importe laquelle de ses chansons mieux que lui, même si on me donnait un coup dans les testicules. Mais Stéphane, les liens du sang parfois des mystères, puisque alors que ça semblait sans espoir, Liam a évoqué l'année dernière un désir de réconciliation. Dans une interview, il dit « La question n'est pas de reformer un groupe, je suis saoulé par cette histoire. C'est juste l'histoire de se dire « Écoute, allons boire un coup et discuter de la pluie et du beau temps. » Boire un coup, je pense effectivement que c'est la bonne idée pour ressouder cette fratrie en péril. Allez, moi aussi, ça m'a énervé cette histoire. Tenez, David, on va se faire un petit plaisir. Kevin, tu ne jouerais pas un petit Wonderwall comme à Guettari quand on avait 20 ans ? Hey Kevin ! Eh ouais ! Stéphane, Liam et Noël, ils vont peut-être se réconcilier, mais David et moi, on se réconciliera jamais avec Kevin Bardounet. Non.
Ah, c'était beau. C'était à 99% vrai ?
C'était quasiment tout vrai, à part les conneries sur Kevin Bardounet qui n'a pas existé. Mais enfin, d'autres ont existé qui étaient très très proches. Hein, très très proches quand même, mais très fortement inspirés.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous quittons à présent nos frères ennemis de l'histoire pour rejoindre nos frères amis. Oui. Bonjour. Olivier Pouls et David Cassel-Lopez. Oui, ben on est dans le monde des bisounours maintenant. Qui chaque jour, dans cette dernière demi-heure, éclaire le présent à la lumière du passé. Ce sont des lumières. Olivier Pouls, vous avez dit que vous alliez nous parler du ceviche qui vient du Pérou.
Et voilà, je vais vous faire voyager, puis je vous en donnerai une recette un peu originale, de saison et surtout réalisable par tout le monde, y compris Mathieu et David.
Et moi aussi.
Bien sûr, mais moi je sais que vous cuisinez très bien.
Non, 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 non,
non. Non, il a un cuisinier qui cuisine très bien.
Non, mais arrêtez.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'où viennent ces mots?
Et oui,
Stéphane.
Et qui a décidé de les appeler ainsi? Ben, c'est le mot de la fin.
Ça sera le mot de la fin. Et tout de suite, les origines, on va enfin entendre David Cassel-Lopez, dont je parle de plus en plus dans ma chronique. Vous le connaissez déjà très bien.
Vous en faites un vrai personnage.
Il n'a pas besoin de moi pour ça, mais c'est vrai que j'aime rebondir sur ses aspérités, cette personnalité étonnante, atypique, qui nous vient du Portugal. Cassel-Lopez, les origines. Aujourd'hui, la disparition du duel.
Les origines d'une disparition.
Oui. Les origines d'une disparition, ça va très très loin.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
David Cassel-Lopez, chaque jour, vous nous emmenez aux origines, et aujourd'hui aux origines d'une disparition.
Tout à fait. Il y a une époque où tout le monde se battait en duel, maintenant plus. Qu'est-ce qui s'est passé?
Loi.
Voilà. Non, pas tout à fait. Moi, quand je pense au duel, il y a quand même deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est ces films de KPDP des années 40-50 où on voit des gens se battre de façon un peu théâtrale et nulle, voyez, en sautant sur des tables, en arrachant des tapisseries, en se suspendant à des lustres de façon complètement débile. Et la seconde, c'est Clint Eastwood, et en particulier cette façon qu'il a de plisser les yeux au soleil, qui lui fait des pas de doigts de malade, mais c'est un peu sexy. Et je pense qu'il m'arrive souvent, moi, à moitié inconsciemment, d'imiter ce regard de Clint Eastwood et de me dire que peut-être je suis aussi bien que lui. Mais le duel, historiquement, c'était pas Clint Eastwood, c'était une ordalie. Alors, ordalie, c'est un mot que j'adore parce qu'on dirait vraiment le prénom d'une jeune fille un peu chic et évanescente. Oui, voyez. Oui. Je m'appelle ordalie, j'aime le mystère. Voyez.
Ça, au Moyen-Âge, je ne veux pas s'appeler ordalie.
Exactement. Mais en fait, non, bien sûr, ordalie, ça veut dire jugement de Dieu. Et c'était au Moyen-Âge une façon de déterminer ce que Dieu pensait. Parce que Dieu, vous le connaissez, il est balèze, mais disons qu'il ne parle pas beaucoup. Voilà. Donc on se démerde comme on peut pour savoir ce qu'il veut dire. Donc il faut imaginer un juge au Moyen-Âge qui n'arrive pas à déterminer si c'est Monsieur X ou Monsieur Y qui a commis un crime. Eh bien, il organise un combat entre Monsieur X et Monsieur Y. Et celui qui meurt dans le combat, eh bien, c'est celui qui
forcément
avait commis le crime.
Voilà, Dieu ne peut pas se tromper.
Exactement. Bon, il y a vraiment un âge d'or du duel, c'est le 19e siècle en France. En partie parce que le 19e siècle, c'est le siècle de l'explosion de la bourgeoisie, c'est-à-dire des gens riches mais pas nobles. Or, les bourgeois à cette époque, ils sont un petit peu complexés justement par le fait de ne pas être nobles. Et du coup, ils veulent faire un peu comme les nobles. Et qu'est-ce qu'ils font les nobles historiquement? Eh bien, ils se battent en duel. Et donc, au 19e siècle, tout le monde se bat en duel, en particulier avec des pistolets. Les hommes politiques en particulier n'arrêtent pas de se battre. Clémenceau, par exemple, il s'est battu en duel 12 fois quand même. Hein. C'est un peu comme si pas Claude Bartolone s'était battu en duel. Oui. C'est un peu bizarre. Gambetta, Jean Jaurès, des journalistes aussi. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'il y avait assez peu de gens qui mouraient dans ces duels.
Ils étaient blessés, sans doute.
Il y a un sociologue de la fin du 19e siècle qui s'appelait Gabriel Tarn et qui a compté les duels en France à partir de ce qui paraissait dans les journaux. Et il a estimé que le duel ne donnait lieu qu'à une mort une fois tous les 30 duels. Donc, c'est-à-dire, se battre en duel, c'était quand même plus dangereux que de pas se battre en duel, mais c'était pas non plus super dangereux. Pourquoi? Eh bien parce que souvent, on utilisait des pistolets un peu nuls, qui n'étaient pas très précis, on mettait un peu moins de poudre que ce qu'on devait dedans, pour que la balle aille moins loin, parce que quand même, bon, on ne voulait pas que les gens y meurent. Quoi, voilà. Mais il se passe un truc, malgré tout ça, c'est que après la Première Guerre mondiale, les gens, ils ont arrêté assez brusquement de se battre en duel. Pourquoi? Alors, pour le savoir, je suis allé voir un historien super connu, que vous connaissez tous, je suis sûr, qui s'appelle Jean-Noël Jeannet, et qui a écrit un livre sur l'histoire du duel. Et Jean-Noël, il explique que bon, il y a eu 1,5 million de morts français pendant la Première Guerre mondiale, et que, en fait, dans ces circonstances, assez brusquement, le fait de se tuer pour des conneries, ça devient un peu mécaniquement ridicule et de mauvais goût. Mais assez brusquement, après la première guerre mondiale. Et donc, ça s'arrête. Enfin, ça s'arrête. Il y a quand même eu quelques duels en France encore. Et le dernier des derniers, il a eu lieu en 1967. Clémentine Portier-Kaltenbach en a parlé l'autre jour. Et il a opposé le maire de Marseille de l'époque, qui s'appelait Gaston Defferre, à un député, René Ribière. Parce que Defferre, un jour, à l'Assemblée, il a dit à Ribière « Taisez-vous, abruti !» Voilà. Voilà, et Ribière, du coup, l'a provoqué en duel. Et le 21 avril 1967, ils se sont battus. C'était dans le jardin d'une maison à Neuilly, c'était à l'épée. Ça a duré 4 minutes, et au bout de 4 minutes, Ribière a reçu une égratignure au bras, et ils ont arrêté. Mmh. Il y a un film de ce duel qui est assez ridicule à voir. Vraiment, c'est,
on peut le visionner.
Ils se tiennent comme ça, machin, puis là, ils se regardent.
Ce qu'on appelle le premier sang.
Le premier sang, voilà. Et surtout, ce qui est fou, c'est de voir que toute la presse a trouvé ça ridicule aussi. Tiens, le Figaro, par exemple, le lendemain, il a titré « Le ridicule tue plus sûrement que les épées ». Voilà. Et voilà comment Lord Ali a perdu son mystère pour devenir un petit peu naze.
Ah oui, complètement. Ouais. Enfin, heureusement, on va se réjouir de la fin des duels, quand même. Stéphane, vous n'êtes pas nostalgique de cette époque.
Ah, pas du tout, non.
Mais ce qui est assez rigolo, c'est que voir qu'au 19e siècle, il y avait une sorte de tolérance juridique pour le duel. C'est-à-dire, on disait genre, là, il y a un truc de la Cour de cassation qui dit non, on va pas se mêler de ces trucs-là. S'il y a un problème d'honneur, vous pouvez aller vous battre.
En tout cas, merci David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
Lui, il se sert souvent d'une épée, mais uniquement pour concocter des carpaccio et des ceviches, puisque c'est à peu près la même chose, mais ça vient du Pérou. Et là, mon réalisateur est mort de rire parce qu'il voit que je me suis planté. Je voulais dire ceviche, j'ai dit carpaccio, mais c'est la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui vient du Pérou. Ouais. C'est à peu près pareil.
Pas tout à fait pareil quand même.
Hein. Oui, bon, bah ça va, vous allez nous expliquer.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On ne lui connaît aucun ennemi, à part Aymeric Caron, qu'il n'a jamais réussi à convertir aux joies de la côte de bœuf et de la préparation des anguilles à la mode maïté.
Viens là, ma biche.
Olivier Smouls, quel animal allons-nous assommer puis découper finement aujourd'hui?
Toute une série de poissons.
Ah, toute une série de petits poissons. Vous nous parlez du
ceviche. Des poissons, des crustacés, des fruits de mer, ce que vous voulez.
Là, vous nous parlez du ceviche, qui n'a rien à voir avec
le
carpaccio, par exemple.
Ni le tartare.
Mais alors, quelles sont les différences?
Je vais vous le dire dans un instant. L'idée, c'est d'avoir évidemment un produit cru au départ, donc on pourrait considérer que le ceviche, c'est un peu le tartare sud-américain. À une petite différence près quand même, c'est que en fait, dans le ceviche, il y a une marinade, notamment constituée de citron vert, qui va, et j'utilise des guillemets, cuire.
Pourquoi des guillemets?
Parce que c'est pas vraiment la cuisson normalement, c'est à la chaleur. Alors il se trouve qu'il y a une dénaturation des protéines, donc de la chair animale, qui ressemble à la cuisson, ça va notamment blanchir, mais techniquement on peut pas parler de cuisson puisqu'il n'y a pas d'utilisation de la chaleur. Mais cette marinade va cuire. Alors que quand on prépare un carpaccio ou un tartare, en général on le fait vraiment minute et il n'y a pas cette action du jus de citron qui va cuire. Et pourquoi utilise-t-on d'ailleurs cette cuisson au jus de citron? Parce qu'en plus de modifier le goût, elle permet aussi d'éliminer un certain nombre de toxines possibles. Alors attention, ça ne vaut pas une cuisson là aussi.
Oui, ça élimine
quand
pas
on
aussi
fait,
bien.
Quand on fait un carpaccio, un ceviche ou un tartare, on utilise des poissons extrêmement frais. On ne plaisante pas avec ça parce que ce sont des sources d'ennuis potentiels et de lendemain parfois un peu compliqués. Alors, en ce qui concerne le ceviche, je vous l'ai dit, il vient d'Amérique du Sud et plus précisément du Pérou. C'est un plat qui existe depuis à peu près 2000 ans. Alors, au début, on utilisait une boisson fermentée qui s'appelle la chicha.
La chicha, vous êtes sûr que vous êtes bien enquêté ou on vous aura mal aiguillé peut-être?
C'est un jus fermenté de maïs, rien à voir avec celle que vous connaissez personnellement. C'est un jus fermenté de maïs et ensuite les conquistadors ont apporté les agrumes et à partir du 16e, 17e siècle, on voit arriver le citron vert, la coriandre et l'oignon.
Comme quoi, on dit souvent du mal des conquistadors, on a un bon exemple.
Une chose qu'on
leur a apporté la vérole et tout, mais par contre, on leur a apporté le citron et ça leur a permis de faire délicieux ceviche. Alors, allez pas nous emmerder.
Exactement, ils n'ont pas fait que piller les réserves d'or, violer les femmes, ruiner des civilisations entières.
N'oublions pas l'apport essentiel
quand même
des Européens.
Merci. Et donc, ce ceviche, à partir du 16e et 17e siècle, il va évidemment se répandre dans toute l'Amérique du Sud. Il va se décliner. Il n'y a pas une recette de ceviche, mais il y en a des dizaines. Alors, de l'Équateur au Mexique, donc en passant par le Pérou, à Cuba également, dans toute cette zone, on va réaliser cette recette. Et moi, je vais vous en donner une version un peu française et surtout de saison. On peut utiliser pratiquement tous les poissons qu'on veut pour le ceviche, poissons, fruits de mer, crustacés. En ce moment, on est en pleine saison de la Saint-Jacques. Et je pense que l'idée, c'est de faire un petit ceviche Saint-Jacques. On est également dans la saison de la poire, et donc le ceviche, on trouve beaucoup dans les ceviches sud-américains de l'avocat, donc on va remplacer l'avocat par de la poire. Le petit côté pimenté, je vais l'amener par du radis noir. Le radis noir, c'est pareil, on est dans la saison et c'est un côté piquant. Et donc ce qu'on va faire, c'est cette fameuse marinade, hein, citron vert, coriandre. Je rajoute une toute petite goutte d'huile d'olive. Je découpe mes belles noix de Saint-Jacques, extrêmement fraîches une fois encore. En gros morceaux, parce que là aussi, l'une des caractéristiques du ceviche, c'est qu'on garde de la mâche. Le tartare, c'est haché très petit, le carpaccio, c'est taillé en lamelles, et le ceviche, on garde vraiment des morceaux. Donc pendant 30 minutes, on va faire mariner nos noix de Saint-Jacques.
C'est un tartare au couteau.
C'est un tartare au couteau. On va faire mariner pendant une trentaine de minutes, de manière à avoir un début de cuisson de cette Saint-Jacques. On va tailler un oignon rouge en fines lamelles, on va rajouter de la coriandre à la dernière minute, et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster sel, petite correction de poivre si on veut, et on est prêt.
Ça va être bon en tout cas.
Très bien. Ça va être délicieux.
Eh bien, moi, en tout cas, ça me donne envie de retrouver la recette sur le site d'Europe1.fr.
Très beau site.
Formidable. Non, mais tout sur le coup, on n'a pas pris de notes.
C'est ça le problème. C'est qu'on vous écoute, on boit vos paroles, on oublie les notes. Heureusement, on retrouve tout sur le site. Et on était au Pérou à l'instant. Merveilleux Pérou. Fascinant. Et là, comme j'ai l'oreille absolue, je vous le dis.
Ça, j'entends, je suis dans le métro surtout.
J'entends. Oui, c'est notre seule musique pour tout le continent. C'est le continent amérindien. On a une musique. Donc ça vaut pour le Pérou aussi. Mais là, j'entends les notes. Do, mi, sol, fa, do. Eh oui, mais d'où vient la gamme, Stéphane? C'est ce que vous nous racontez aujourd'hui. Qui a choisi?
C'est le mot de la fin.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vient un moment dans cette émission où, après avoir beaucoup ri et fort élégamment, Stéphane Bern réalise quand même que pour justifier son salaire qatari, disons les choses, il doit faire justement quelque chose, en l'occurrence une chronique. Son projet, nous dévoiler chaque jour l'histoire d'un mot ou d'une expression. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier, Stéphane.
Oui, Mathieu, ce n'est pas à l'animateur radio que j'aimerais m'adresser, ni à celui qui détient la moitié du CAC 40, non, mais maintenant, mais au saxophoniste, au Charlie Parker d'Europe 1, comme on vous surnomme, dans les couloirs de la radio. Aujourd'hui, posons-nous la question suivante. Pourquoi dit-on do, ré, mi, fa, sol, la, si, do?
Eh bien, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la gamme, à savoir une suite de notes montantes ou descendantes dans une octave.
Si les auditeurs d'Europe 1 n'étaient pas encore convaincus que vous aviez tous les talents, vous avez convaincu les derniers sceptiques, Mathieu.
Bref,
remontons le temps pour nous retrouver au XIe siècle. Un moine toscan du nom de Guido d'Arezzo imagine ces sept notes en analysant un chant religieux, l'hymne à Saint Jean-Baptiste. Les paroles de cette chanson disent « Afin que tes serviteurs puissent chanter à gorge déployée, ôte le péché de leurs lèvres souillées ». En latin, « Ut quiant laxire sonaremi ragestorum famuli », etc.
Ce qui est bien, c'est que le latin, on ne peut pas juger de votre accent. Comme si c'était une langue morte, on ne peut pas se foutre de vous. Ça se trouve, c'était comme ça qu'on parlait.
Vous l'avez compris, le début de certains mots donne la gamme ré, mi, fa, etc. Et tout cela va évoluer. Au XVIe siècle, Anselme de Flandre, qui faisait partie de la chapelle du duc de Bavière, à Munich donc, ajoute le si. Au XVIIe siècle, le ut est remplacé par le do. Fait étonnant, en Allemagne, les notes sont écrites par des lettres de l'alphabet. Voilà, désolé pour ceux qui ne sont pas intéressés par la musique. Après tout, comme le disait si bien l'homme de médias Philippe Meyer, la musique c'est comme l'amour, il y a des heures et des endroits pour ça.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis, et force est de l'admettre, les amis, nous n'aurons pas réussi à réconcilier ni Voltaire et Rousseau.
C'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est
ni pas Frank moi. Sinatra et John Fitzgerald Kennedy.
Sortir, c'est-tu bien dit, espèce de décoloré ? Je vais te dresser, moi, avant vous l'air.
Et encore moins les frères Gallagher, que Stéphane a découvert en direct avec vous cet après-midi. Stéphane, laquelle de ces rivalités vous a le plus secoué ?
Frank Sinatra et JFK, parce que j'ai appris. Oui, c'est-à-dire que JFK, qui a quand même en France une aura de héros, à cause de sa mort sans doute, on s'aperçoit que, déjà, il avait des pathologies, il n'était pas très en forme, le gaillard, mais surtout, il était lié à la mafia.
Et qu'ils se soient servis l'un de l'autre comme ça. Mais je vais vous le dire, ça m'a choqué.
Oui,
je le dis au effort.
Vous savez, déjà, et puis, toute ressemblance avec des faits récents me paraît.
Oui, voilà. Essayons de ne pas trop y penser. On se retrouve demain, Stéphane, pour de nouvelles aventures.
Oui, avec joie. Demain, on ne lâche rien. On réunit trois obstinés de l'histoire qui ont persévéré, alors que ce n'était pas gagné d'avance. Le chercheur Louis Pasteur, le producteur Walt Disney.
Et James Dyson, l'inventeur de l'aspirateur du même nom, qui en a bavé avant de pouvoir le faire marcher. Vous vous allez voir. Alors à demain.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.